Chapitre 12. Côte Rouge 2. À son entrée dans la base de Côte Rouge, Iwanji ne fut pas assignée à un poste fixe. Elle n'effectuait que quelques tâches d'ordre purement technique et toujours sous la surveillance d'un gardien. Des années plus tôt, alors qu'elle était en deuxième année à l'université, Iwanji s'entendait bien avec le professeur qui était par la suite devenu son directeur de recherche en troisième cycle. Il lui avait signifié que, pour mener des recherches dans le domaine de l'astrophysique, être excellent en théorie était inutile sans connaissance des méthodes expérimentales ni capacité d'observation. Du moins, c'était le cas pour la Chine. C'était une vision qu'était loin de partager son père, mais Wenji avait plutôt tendance à donner raison à son professeur. Elle avait toujours trouvé que son père était un homme trop théorique. Son professeur avait été l'un des pionniers de la radioastronomie en Chine. C'était sous son influence que Wenji avait développé un profond intérêt pour cette branche de l'astronomie et qu'elle avait appris en autodidacte le génie électrique et les sciences de l'informatique, deux disciplines souvent regroupées ensemble dans les universités de l'époque et qui constituaient les fondements techniques des expériences et des observations scientifiques. Durant ces deux années de troisième cycle, elle et son professeur avaient eu l'occasion de tester le premier petit radiotélescope chinois. Elle avait ainsi accumulé beaucoup d'expérience dans ce domaine. Elle ne s'était pas imaginé que ses connaissances trouveraient un jour leur utilité dans la base de Côte Rouge. Wenji commença par être affectée aux tâches d'entretien et de réparation au sein de l'unité de transmission, mais très vite, elle devint un élément essentiel de toutes les opérations menées par l'unité. Cela la rendit tout d'abord quelque peu perplexe. Elle était la seule personne de la base à ne pas porter d'uniforme militaire et, en raison de son identité, les gens gardaient avec elle une certaine distance. Sa seule manière d'échapper à la solitude était de s'immerger corps et âme dans le travail. Mais cela ne suffisait pas à expliquer pourquoi elle s'était rendue aussi vite indispensable. Après tout, Côte Rouge était un projet clé de défense nationale. Comment se faisait-il que les ingénieurs de la base soient médiocres au point qu'une personne comme elle, non formée en ingénierie et sans expérience, arrive à les remplacer si facilement? Elle en découvrit bientôt la raison. Contrairement à ce qu'il laissait croire, les employés de la base étaient bien les meilleurs ingénieurs du deuxième corps d'artillerie. Une vie entière n'aurait pas suffi à Wenji pour emmagasiner toutes leurs connaissances en électrique et en informatique. Mais la base était loin de tout, et les conditions de travail y étaient déplorables. Les principales recherches sur le projet étant achevées, il ne restait plus que des travaux de maintenance et de réparation, si bien que les opportunités d'accomplir une avancée technologique majeure étaient très rares. Par conséquent, la plupart des ingénieurs s'efforçaient de ne pas paraître indispensables, car, dans une base aussi secrète, dès que vous rejoignez le cœur de la partie technique, il était quasiment impossible d'en sortir. Ils essayaient donc délibérément de dissimuler leur technique en se gardant toutefois de donner l'impression d'être trop incompétents. Ainsi, lorsqu'un technicien supérieur leur disait d'aller à l'est, ils s'obstinaient bêtement à aller à l'ouest, de sorte que les responsables se disent « Ce garçon est persévérant, mais il n'a pas les compétences requises. Le garder serait contre-productif. » Grâce à cette stratégie, beaucoup avaient réussi à être mutés ailleurs. Dans ces conditions, Iwanji était malgré elle devenue une des techniciennes les plus importantes de la base. Mais une autre raison expliquait la rapidité avec laquelle elle avait acquis ce statut. De ce qu'elle pouvait en voir, la base de Côte Rouge ne possédait en fait aucune réelle technologie de pointe. Comme lors de son entrée dans la base, Iwanji continuait à être principalement affectée à l'unité de transmission, mais au fil du temps, les restrictions la concernant se relâchèrent progressivement, et le gardien qui veillait sur elle fut rappelé. Elle était à présent autorisée à avoir un accès direct à la plupart des structures du système d'armement de la base de Côte Rouge et à lire les documents techniques connexes. Naturellement, il y avait encore des domaines qui lui étaient interdits, comme toute la plateforme de contrôle informatique. Mais Wenji découvrit plus tard que cette branche n'avait pas l'importance qu'elle avait imaginée. Elle en voulait pour preuve le fait que les ordinateurs de l'unité de transmission étaient encore plus anciens que les DJS-130 et possédaient une mémoire à tore magnétique et des rubans perforés. Le record du nombre d'heures passées sans dysfonctionnement des appareils ne dépassait pas 15 heures. Elle avait aussi découvert que la précision du système de ciblage des transmissions était très limitée, peut-être même pas celle d'un viseur de canon d'artillerie. Ce jour-là, le commissaire politique Lazy Cheng vint trouver Wenji pour discuter. Elle avait l'impression que Yang Wenning et Lazy Cheng avaient changé de rôle. Yang Wenning n'était que l'ingénieur en chef du projet. Il n'avait pas de position politique très élevée et, en dehors des domaines purement techniques, il n'avait aucune autorité. Il devait se méfier des techniciens et se montrer poli avec les soldats placés en sentinelle, car on l'aurait accusé de trahir la Triple Alliance ou de freiner le progrès de la pensée. C'est ainsi que, dès qu'il rencontrait des difficultés, il se servait de Wenji comme d'un punching ball. À l'inverse, l'importance croissante que celle-ci prenait dans les opérations techniques avait modifié le regard que portait sur elle le commissaire Lei. Jadis froid et agressif, il faisait maintenant preuve de sollicitude à son égard. Wenji, depuis le temps que tu es ici, tu as pu te familiariser avec le système de transmission. Il s'agit de la structure offensive de Côte Rouge, son unité principale. Pourrais-tu me donner ton avis sur le système dans son ensemble ? Demanda le commissaire politique Lei. Ils étaient alors assis au bord de la falaise abrupte du pic du radar. C'était l'endroit le plus paisible de toute la base. La falaise droite semblait donner sur un abysse sans fond. Ce panorama faisait peur au début à Wenji, mais elle s'y était habituée et maintenant elle aimait venir seule ici. Wenji ne savait pas vraiment comment répondre à la question de Lazy Cheng. Elle ne s'occupait que d'entretien et de réparation et ignorait tout du système global de la base militaire de Côte Rouge, y compris quelles étaient ses cibles et ses opérations. Il ne lui était d'ailleurs même pas permis d'assister aux transmissions ordinaires. Elle réfléchit, voulut dire quelque chose, mais finit par s'abstenir. « Ne crains rien, dis ce que tu as sur le cœur, » dit le commissaire en ramassant un brin d'herbe et en jouant avec distraitement. « Ce n'est ni plus ni moins qu'un transmetteur radio. »« Exactement, c'est un transmetteur radio. » dit le commissaire en opinant de la tête d'un air satisfait. « As-tu déjà entendu parler des fours micro-ondes ?» Wenji fit non de la tête. « C'est un nouveau jouet de luxe des classes bourgeoises occidentales. Il cuit les aliments en utilisant l'effet chauffant généré par l'action des micro-ondes sur les molécules d'eau. Dans mon ancien institut de recherche, nous en avions importé un de l'étranger pour calculer avec précision l'usure à haute température de certains composants. Après le travail, nous l'utilisions pour réchauffer nos pains à la vapeur et pour faire cuire des pommes de terre. C'est très intéressant. Les aliments sont chauds à l'intérieur alors qu'ils sont encore froids à l'extérieur. » Le commissaire politique Lei s'était levé. Il continuait à parler en marchant si près du bord de la falaise qu'il rendait Wenji anxieuse. « Côte Rouge est un four à micro-ondes. Les cibles que nous voulons cuire, ce sont les engins spatiaux ennemis. Un simple rayonnement micro-ondes de 0,1 à 1 watt par centimètre carré suffirait à mettre hors d'usage ou à brûler les composants électroniques des satellites de communication, des radars ou des systèmes de navigation. » Tout s'éclairait soudain dans l'esprit de Iwenji. Le système de Côte Rouge n'était certes qu'un transmetteur radio, mais cela ne voulait pas dire que c'était un transmetteur ordinaire. Ce qui la surprenait le plus, c'était sa puissance de transmission. Elle pouvait atteindre 25 mégawatts. C'était non seulement beaucoup plus que tous les transmetteurs de communication existants, mais aussi que tous les transmetteurs radars. L'énergie de transmission de Côte Rouge lui était fournie par un ensemble de gigantesques condensateurs. Du fait de sa puissance, ses circuits de transmission étaient bien différents des circuits traditionnels. Wenji comprenait maintenant l'utilisation de ces transmetteurs à haute puissance. Cependant, une autre question lui vint à l'esprit. « Mais j'ai l'impression que les signaux sont d'abord modulés avant d'être transmis. » « Effectivement. Mais cette modulation est très différente de celle habituellement effectuée pour des communications radio. Il ne s'agit pas de transmettre des informations, mais d'utiliser des fréquences et des amplitudes variables destinées à percer les éventuels systèmes de protection prévus par l'ennemi. Bien entendu, tout cela en est encore au stade expérimental. » Wenji hocha la tête. Beaucoup des questions qu'elle se posait venaient de trouver une réponse. Nous avons récemment lancé à Jiuquan deux satellites cibles que nous avons fait attaquer par le système d'armement de côte rouge. L'opération a été un succès, les cibles ont été détruites. L'intérieur des satellites a été chauffé à une température approchant 1000 degrés Celsius. Tous les instruments électroniques et les équipements photographiques à bord ont été dissous. Dans les prochaines guerres, Côte Rouge sera capable d'attaquer avec une grande efficacité les satellites de communication et de reconnaissance ennemis, comme la série de satellites espions américains KH-8 et la future série KH-9. Et c'est sans parler des satellites espions soviétiques encore plus vulnérables. Quand il le faudra, nous pourrons anéantir la station spatiale soviétique Salyut ou la station Skylab que les États-Unis vont lancer prochainement. « Commissaire Lay, de quoi parlez-vous ? » dit quelqu'un dans le dos de Wenji. Elle se retourna. C'était Yang Wenning. Il fixait le commissaire politique avec un regard sévère. « C'est pour le travail !» lâcha le commissaire avant de s'en aller. Yang Wenning regarda Wenji sans rien dire et s'en alla à son tour, laissant Wenji seul. « C'est lui qui m'a fait venir ici, mais encore aujourd'hui, il ne me fait toujours pas confiance, » se dit tristement Wenji, tout en s'inquiétant pour Lazy Cheng. Dans la base, le pouvoir politique de Lazy Cheng était certes plus important que celui de Yang Wenning, et c'était lui qui prenait toutes les décisions finales. Toutefois, son départ précipité de tout à l'heure signifiait clairement aux yeux de Wenji qu'il avait commis une erreur devant l'ingénieur en chef. Cela la confortait dans l'idée qu'il lui avait révélé le véritable but de Côte Rouge. Subirait-il les conséquences de cette confiance? Alors qu'elle regardait s'éloigner la robuste silhouette du commissaire politique, une vague de gratitude lui emplit le cœur. Ici, la confiance était à n'en pas douter un luxe auquel elle n'aspirait déjà plus. Comparée à Yang Wenning, Lazy Cheng était plus proche de l'image qu'elle se faisait d'un militaire. Il en avait la franchise et la droiture, tandis que Yang Wenning n'était rien d'autre que ce genre d'intellectuel quelconque comme il y en avait tant à cette époque, lâche et prudent, seulement à la recherche de protection et de sécurité. Wenji pouvait le comprendre, mais la distance qui la séparait de lui s'accrut. Le lendemain, Wenji fut transféré de l'unité de transmission à l'unité de surveillance. Elle avait d'abord cru que cette décision était en lien avec ce qui s'était passé la veille, qu'on l'éloignait du secteur principal de Côte Rouge. Cependant, une fois arrivée dans l'unité de surveillance, elle comprit que le centre de la base était bien là. Les appareils des deux unités étaient certes les mêmes, on utilisait la même antenne, mais le niveau de technologie de l'unité de surveillance était bien plus avancé que celui de l'unité de transmission. L'unité de surveillance possédait un système de réception des ondes radio très sensible et très performant. Les signaux reçus par l'antenne étaient amplifiés à l'aide de maseurs à ondes progressives en rubis et le noyau du système de réception était immergé dans une cuve d'hélium liquide à moins 269 degrés Celsius, de manière à minimiser les fluctuations thermiques. Un hélicoptère venait remplir la cuve à intervalles réguliers. Toute l'installation procurait au système une très haute sensibilité et il était capable de recevoir des signaux très faibles. Wenji ne pouvait s'empêcher de penser que si cet équipement avait été mis au service de ses recherches en radioastronomie, elle aurait obtenu des résultats fantastiques. Le système informatique de l'unité de surveillance était lui aussi infiniment plus sophistiqué que celui de l'unité de transmission. La première fois qu'elle était entrée dans la salle informatique, elle avait vu une rangée d'écrans à tubes cathodiques. Elle avait découvert avec surprise que des lignes de code de programmation défilaient sur les écrans, c'est-à-dire que les programmes informatiques étaient susceptibles d'être édités et modulés facilement grâce au clavier. Lorsqu'elle utilisait des ordinateurs du temps où elle était à l'université, les codes étaient d'abord écrits à la main sur des feuilles de programmation avant d'être tapés sur des rubans perforés via une machine à écrire. Elle avait entendu dire qu'on pouvait maintenant faire de la programmation directement avec un clavier et un écran, mais c'était la première fois qu'elle voyait cela. Ce qui la surprenait encore davantage, c'étaient les logiciels disponibles. Elle prit connaissance d'un logiciel nommé Fortran, qui permettait d'utiliser un langage de programmation proche du langage naturel et même d'entrer des équations mathématiques. La programmation avec le logiciel Fortran s'avérait bien plus efficace que la programmation en langage machine. Il existait également une chose appelée base de données qui permettait d'emmagasiner et de manipuler à son aise une grande quantité de données. Deux jours plus tard, le commissaire politique Lei retourna voir Wenji. Mais la discussion eut cette fois-ci lieu dans la salle informatique de l'unité de surveillance, devant la rangée d'écrans verts clignotants. Yang Wenning s'assit non loin. Il ne participait pas à leur conversation, mais ne semblait pas non plus disposé à partir. Wenji se sentait mal à l'aise. « Wenji, dit le commissaire politique Lei, je vais t'expliquer en quoi consiste principalement le travail de l'unité de surveillance. Pour le dire simplement, son rôle est de surveiller les mouvements ennemis dans l'espace, y compris les communications entre différents engins spatiaux et la Terre, et entre les engins eux-mêmes. L'unité de surveillance travaille en collaboration avec nos centres de contrôle aérospatial pour observer la position des vaisseaux spatiaux étrangers en orbite dans l'espace. Elle fournit des données au système d'armement de la base. Pour le dire autrement, ce sont les yeux de Côte Rouge. » Yang Wenning l'interrompit. « Commissaire Lei, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Il n'y a aucune nécessité à lui raconter tout cela. » Wenji observa Yang Wenning assis un peu plus loin et murmura d'une voix inquiète. « Commissaire, si ce n'est pas approprié, je peux le comprendre et... » « Non, non, Wenji. » Le commissaire Lei leva la main comme pour la faire taire, puis il se tourna vers Yang Wenning et déclara « Toujours la même phrase, ingénieur en chef Yang. C'est pour le travail. Pour que Wenji progresse, il faut lui dire ce qu'elle doit savoir. » Yang Wenning se leva. « Je ferai un rapport. C'est bien sûr ton droit, mais sois certain, ingénieur en chef Yang, que j'en assumerai toute la responsabilité. » dit sereinement le commissaire Lei. Furieux, Yang Wenning tourna les talons. « Ne t'en fais pas, Wenji. L'ingénieur en chef Yang est ainsi, il est toujours trop prudent. Son travail l'étouffe parfois, » sourit le commissaire politique en secouant la tête. Puis il regarda Wenji dans les yeux et déclara sur un ton solennel. « Wenji, si nous t'avons fait venir à la base, c'était au début pour une raison précise. Le système de surveillance de Côte Rouge rencontre fréquemment des perturbations dues à des rayonnements électromagnétiques provoqués par des éruptions ou des taches solaires. Nous sommes par hasard tombés sur ton article et avons découvert que tu avais mené des recherches approfondies sur les activités du Soleil. Tu as établi ce qui est aujourd'hui en Chine le modèle de prévision le plus précis. Nous avons donc voulu faire appel à tes compétences pour nous aider à résoudre ce problème. Mais dès ton arrivée, tu as fait preuve de grandes compétences techniques et nous avons décidé de te confier davantage de responsabilités. Voilà quelle était mon idée. T'affecter tout d'abord à l'unité de transmission, puis à celle de surveillance, pour que tu aies une compréhension exhaustive du système de Côte Rouge. Quel sera ton prochain poste ? Nous y réfléchirons en temps voulu. Bien entendu, comme tu l'as remarqué, certains n'y étaient pas favorables, mais j'ai personnellement choisi de te faire confiance. Wenji, je vais être clair. Je suis aujourd'hui le seul à t'accorder ma confiance. J'espère qu'en travaillant dur, tu pourras gagner celle de toute l'organisation. Le commissaire politique Lei posa sa main robuste sur l'épaule de Wenji. Elle sentit la force et la chaleur que celle-ci lui insufflait. « Wenji, je vais te dire ce que je souhaite réellement. J'aimerais un jour pouvoir t'appeler camarade. » Après avoir prononcé ces mots, le commissaire politique se leva et s'éloigna de son pas assuré de militaire. Les yeux de Wenji étaient gorgés de larmes à travers lesquelles elle voyait s'afficher sur les écrans une ronde de flammes dansantes. C'était la première fois qu'elle pleurait depuis la mort de son père. Une fois rompue au travail dans l'unité de surveillance, elle s'aperçut vite que son efficacité était loin de celle dont elle avait fait preuve au sein de l'unité de transmission. Ses connaissances en informatique étaient dépassées et elle devait souvent apprendre le fonctionnement des logiciels à partir de zéro. Même si le commissaire politique Lei lui faisait confiance, elle était toujours très strictement encadrée. Elle était autorisée à voir les codes sources des logiciels, mais ne pouvait avoir accès à la base de données. Durant la plupart de ses journées de travail, Wenji était sous la tutelle de Yang Wenning. Celui-ci était devenu encore plus irritable et se fâchait facilement, malgré les remontrances du commissaire Lei. C'était comme si, dès qu'il voyait Wenji, son cœur s'emplissait d'une indicible anxiété. Peu à peu, elle découvrait au cours de son travail de plus en plus de choses qu'elle ne pouvait expliquer. Elle avait l'impression que les projets de la base de Côte Rouge étaient autrement plus complexes qu'elle ne se l'était imaginé. L'unité de surveillance intercepta un jour une transmission particulièrement intéressante qui, après avoir été décryptée informatiquement, se révéla être une série de photographies prises par un satellite. Les images floues furent envoyées au bureau général de la cartographie pour être interprétées. On découvrit qu'il s'agissait de cibles militaires sensibles situées sur le territoire chinois, dont notamment le port militaire de Tsingtao et quelques usines militaires importantes du projet Troisième Front. Après analyse, il fut établi que les photographies avaient été prises par un satellite espion américain KH-9. Le premier KH-9 venait tout juste d'être envoyé dans l'espace et son activité principale consistait principalement à éjecter des capsules de films récupérables. Mais il avait également pour objectif d'expérimenter une technologie plus avancée, le transfert de photographies numériques. Cette technologie était toutefois encore loin d'être aboutie à l'époque et la fréquence de transmission utilisée plus basse. Les données envoyées numériquement présentaient donc davantage de risques d'être interceptées par le système de Côte Rouge. Comme il s'agissait simplement d'envois expérimentaux, le cryptage des données n'était pas très élevé et elles pouvaient être aisément déchiffrées. Ces transmissions étaient sans aucun doute les plus importantes à surveiller, car il était rare d'avoir une telle opportunité d'obtenir des renseignements sur l'espionnage spatial américain. Cependant, le surlendemain, l'ingénieur en chef Yang ordonna inexplicablement de changer la fréquence et la direction des appareils de surveillance. L'abandon de cette cible paraissait incompréhensible pour Wenji. Elle fut témoin d'un autre événement qui l'intrigua. Bien qu'elle soit désormais affectée à l'unité de surveillance, on lui demandait parfois d'aller effectuer quelques tâches dans l'unité de transmission. Une fois, elle assista par hasard au réglage des fréquences pour les futurs plans de transmission. Elle obtint la certitude que les fréquences des transmissions 304, 318 et 325, qui avaient été sélectionnées, étaient plus basses que la gamme de fréquences des micro-ondes et ne permettaient pas de provoquer d'effets thermiques sur les cibles. Un jour, Iwanji fut soudain convoqué au quartier général de la base. Au regard et à la voix de l'officier, elle eut comme un mauvais pressentiment. Dans le bureau l'attendait une scène qu'elle ne connaissait que trop bien. Les principaux responsables politiques de la base étaient là, accompagnés de deux officiers qu'elle n'avait jamais vus. Dès le premier coup d'œil, on pouvait deviner qu'ils venaient de l'extérieur. Leurs regards se posèrent froidement sur elle. Mais la sensibilité qu'elle avait développée durant ces dernières années lui faisait dire qu'elle ne serait peut-être pas la plus malchanceuse du jour. Elle n'était tout au plus qu'un objet funéraire qu'on enterrerait avec le défunt dans la tombe. Elle vit le commissaire politique Lazy Cheng assis dans un coin de la pièce, l'air abattu. « Il va finalement payer le prix de la confiance qu'il m'a accordée », pensa aussitôt Wenji. D'emblée, elle décida de prendre sur elle toute la responsabilité pour ne pas impliquer le commissaire politique. Elle ne s'empêcherait d'ailleurs pas de mentir. Mais ce fut le commissaire politique Lei qui prit le premier la parole, et ce qu'il expliqua fut pour le moins inattendu. « Wenji, avant tout, je tiens à préciser que je suis contre la raison qui te vaut d'être aujourd'hui dans ce bureau. La décision qui va être communiquée a été prise par l'ingénieur en chef Yang, après qu'il l'a soumise à l'approbation de la hiérarchie. Il assumera l'entière responsabilité des conséquences de cette décision. Puis il se tourna vers Yang Wenning, qui opina solennellement de la tête. Dans le but de mieux mettre à profit tes compétences au sein de la base de Côte Rouge, l'ingénieur en chef Yang a adressé à plusieurs reprises à nos supérieurs une requête te concernant. Nos camarades, envoyés par le département politique général de l'Armée populaire de libération, ont aussi pris connaissance de ta situation, poursuivit-il en désignant les deux officiers qu'elle ne connaissait pas. Avec l'accord de nos supérieurs, nous allons te révéler le contenu réel du projet Côte Rouge. Ce ne fut qu'au bout d'un certain temps que Wenji comprit ce que signifiaient les paroles du commissaire politique. Durant tout ce temps, il n'avait cessé de lui mentir. J'ose espérer que tu saisiras l'opportunité qui t'est offerte pour travailler dur et expier tes crimes. Désormais, nous exigerons de toi que tu te comportes avec la plus grande probité. Le moindre faux pas, le moindre soupçon d'une attitude réactionnaire, et la punition sera exemplaire. La manière qu'avait le commissaire Lei de lui parler et de la dévisager donna la sensation à Wenji que ce n'était pas le même individu qu'elle avait connu autrefois. « Me suis-je bien fait comprendre ?»« Bien, je vais donc demander à l'ingénieur en chef Yang de te donner les explications. » Les autres quittèrent la pièce. Ne restèrent plus dans le bureau que Yang Wenning et Yi Wenji. Si tu ne veux pas, il est encore temps de faire machine arrière. » Wenji connaissait le poids de ses mots et elle comprenait maintenant la nervosité de Yang Wenning ces derniers jours à son égard. Pour pouvoir exploiter toutes ses compétences, elle devait être mise au courant du but réel de Côte Rouge. Mais cela signifiait dans le même temps que le dernier espoir de quitter un jour le pic du radar disparaîtrait à jamais. Côte Rouge serait son tombeau. « J'accepte, » dit Wenji, lentement, mais avec détermination. Et c'est ainsi que cet après-midi du début de l'été, dans le mugissement de l'antenne parabolique et le bruissement des pins des montagnes du Grand Khingan, Yang Wenning révéla à Yi Wenji le projet réel de Côte Rouge. Une légende de cette époque, bien plus incroyable que tous les mensonges de Lazy Cheng.